Écho d'économie.
Détournement présumé à la Gécamines et détournement de frais de soins de santé à l'étranger. La Cour des comptes a remis hier lundi son rapport d'enquête au ministre de la Justice. Où en est-on avec la loi sur le financement des partis politiques 15 ans après son vote au Parlement? La situation sur terrain favorise une certaine opacité, affirme le professeur Gary Sakata, que vous entendrez dans cette émission. Bienvenue à tous. La Cour des comptes a remis hier lundi au ministre de la Justice son rapport d'enquête sur les détournements présumés des deniers publics à la Gécamines et des frais de soins de santé à l'étranger. Recevant ce rapport, le vice-ministre de la Justice a promis de le transmettre au procureur général près la Cour de cassation pour qu'à son tour, il puisse amorcer des poursuites judiciaires à l'encontre des présumés détourneurs de ces deniers. On écoute ici le premier avocat général du parc après la Cour des comptes qui fait le point après le dépôt du dit rapport. Jérôme Nungo est au micro de Jeff Ngoy.
La Cour des comptes a reçu la mission de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer l'opinion. Et dans son travail, il s'est penché sur, d'une part, la situation de la Gécamines pour laquelle, tout récemment, le premier président a eu à prendre des mesures conservatoires à l'endroit de certains compatriotes qui n'ont pas assuré leur travail dans l'emploi des deniers publics. Le dossier des frais de soins de santé à l'étranger, il s'est avéré qu'après le travail de la Cour des comptes, bon nombre de compatriotes se sont permis de bénéficier des deniers publics sans pour autant en faire du bon emploi. Après ce travail qui a été fait par notre chambre de discipline budgétaire, le parquet général a été saisi des cas infractionnels. Pour le soin de santé, le rapport part de l'exercice 2020 à 2022. Et pour ce qui est de la Gécamines, c'est pour l'année 2018.
Parlons à présent des élections. La campagne électorale demande aux candidats de mobiliser beaucoup de moyens, notamment pour financer leurs activités. Théoriquement, une loi votée en juin 2008 prévoit le financement public des partis politiques. Ces subventions concernent aussi bien les dépenses pour les activités permanentes des partis politiques ainsi que celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales. Mais 15 ans après, cette loi n'est toujours pas mise en œuvre. Une situation qui favorise une certaine opacité, selon le professeur d'université et député national Gary Sakata. Il plaide pour un financement public des partis politiques, mais à certaines conditions. Le professeur d'université Gary Sakata, joint au téléphone par Cynthia Bachizi Nabizana.
L'État doit subventionner les partis politiques, mais uniquement les partis politiques qui ont eu de sièges jusqu'à un certain seuil, pas les partis politiques tout court. Donc on doit réduire, on peut par exemple dire que l'on ne pourrait en aucune manière financer autant de partis et que seuls les partis qui ont obtenu par exemple 10% d'élus au niveau national ou au niveau provincial pourront éventuellement être financés. Seuls ceux qui ont l'argent en termes d'affaires ou en termes d'occupation des postes politiques ne peuvent prendre en charge les candidats, même si ceux-ci sont des candidats très sérieux et qui peuvent servir ou qui sont appelés à servir la République. Mais c'est le sentiment qui résulte ou les attitudes qui résultent après que les gens aient vu qu'il y a du financement. C'est plutôt au niveau de la création des partis politiques, la quantité des partis politiques créé actuellement ne permet pas au budget de l'État. Sinon, vous allez voir ça, au lieu de s'occuper des fonctionnaires et des autres couches, on va maintenant s'occuper que des gens qui n'ont pas de boulot que de créer des partis politiques sans idéologie par ailleurs. C'est ça l'autre face de cette question.
Le professeur Gary Sakata est notre invité à suivre tout à l'heure. Dans la province de La Tchopo, le secteur de transport est complètement perturbé depuis ce matin dans la ville de Kisangani, en cause la fermeture de toutes les stations-service, ce qui a provoqué la colère des taxis moto. L'occasion faisant le larron, les revendeurs ont doublé le prix d'un litre de carburant qui est passé de 5 000 à 10 000 francs congolais. Reportage Jacques Moukonkolé.
Les produits vivriers provenant de la périphérie de la ville deviennent de plus en plus rares. Du côté de la RN4, plusieurs véhicules sont bloqués sur la route, occasionnant ainsi l'augmentation des prix sur le marché. À titre illustratif, un kilo de pommes de terre salaire de 4500 francs congolais revient aujourd'hui à 13 000 francs congolais. Un gobelet de riz de 600 francs se vend actuellement à 1300 francs congolais et une botte de feuilles de manioc de 500 francs revient à 3 000 francs congolais. Les consommateurs s'en plaignent.
Kisangani vit en gros grâce à la périphérie. Et cette périphérie aujourd'hui ne permet plus aux agriculteurs de travailler. Ceux qui nous fournissaient le pondou, les ndembi, beaucoup de produits de première nécessité, ils sont là à la commune Kisangani. La RNK qui nous aide à avoir les carburants, les haricots et autres, le pomme de terre qui vient du Nord Kivu n'est plus opérationnel.
Le chef de division provinciale en charge de l'économie, ayant pour mission de réglementer les prix sur le marché, dit être dans l'incapacité de remplir sa mission. Pour lui, le gouvernement congolais doit s'assumer. Roger Mabané.
C'est les autorités du pays qui doivent satisfaire sa population. À part le gouvernement central, nous avons aussi le gouvernement provincial qui reçoit l'argent aussi des fonds pour qu'ils puissent commencer à faire aussi la maintenance. Si les routes sont bonnes, ça sera difficile pour qu'on puisse donner les raisons pourquoi il y a hausse des prix.
Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La journée internationale des droits de l'enfant, c'était lundi 20 novembre. Plusieurs enfants de la ville de Beni sont exploités économiquement, soit par leurs propres parents, soit par des tierces. La plupart de ces enfants en âge de scolarité ont obtenu les certificats d'études primaires par manque de moyens. Selon certains de ces enfants, leurs parents ne savent pas les envoyer faire des études secondaires. Ils sont donc obligés de se débrouiller pour vivre et même contribuer au repas quotidien de leur famille. Le service urbain des affaires sociales envisage la mise en place d'une politique d'encadrement de ces enfants avec l'aide des partenaires. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
J'ai 16 ans. Je ne fais que vendre les beignets de ma mère pour nous permettre de vivre. J'ai abandonné les études en 7e année. Mon père est militaire. J'attends qu'il soit payé pour qu'on m'envoie à l'école. Souriant, habile et dévoué, ce jeune adolescent que nous avons croisé au centre-ville de Beni est pessimiste pour son avenir. Son dernier espoir, c'est d'aller apprendre la mécanique dans un garage, nous a-t-il confié. Par ailleurs, nous nous sommes rendus dans le bas-fond de Kilokwa, derrière le marché central, dans un endroit communément appelé Mabondeni. Ici, de nombreux enfants sont utilisés par des femmes marchandes pour apprêter les pattes et la peau des vaches destinées à la vente au marché. Témoignage.
Je suis en train de laver la peau des vaches, la queue et les pattes communément appelées kinono. J'ai abandonné les études en 6e primaire par manque de moyens. Par jour, je gagne ici 5 000 francs et je les confie à ma grande sœur pour m'aider à épargner. Mon projet, c'est d'acheter et aussi contribuer au repas quotidien de la famille.
Le chef intérimaire du bureau urbain des affaires sociales à Beni s'est dit préoccupé par cette situation. Alex Kiyoma a pour la cause réuni ce lundi 20 novembre des partenaires du gouvernement pour envisager l'encadrement de ses enfants. Beni, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Comme annoncé, notre invité, c'est le professeur d'université et député national Gary Sakata. Il s'exprime sur la nécessité pour l'État de financer les partis politiques et lutter contre des circuits de financement illicites. Professeur Gary Sakata s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Professeur Gary Sakata, bonjour.
Bonjour, madame journaliste.
Vous êtes plutôt favorable à l'idée que l'État puisse subventionner ou financer des partis politiques?
Oui, mais l'État doit subventionner les partis politiques, mais uniquement les partis politiques qui ont eu de sièges jusqu'à un certain seuil, hein. Pas les partis politiques tout court. Donc on doit réduire, on peut par exemple dire que l'on ne pourrait en aucune manière financer autant de partis et que seuls les partis qui ont obtenu par exemple des élus au niveau national ou au niveau provincial pourront éventuellement être financés.
Alors, on sait que la loi sur le financement public des partis politiques n'est toujours pas mise en œuvre. Vous pouvez nous dire pourquoi?
Selon moi, je pense que cette loi a difficile à être mise en œuvre parce que il est déjà difficile de budgétiser les partis qui doivent bénéficier parce que, comme vous le savez, dans notre pays, les partis se créent chaque jour et chaque matin, de sorte que l'on ne sait même pas à l'avance combien de partis peuvent être budgétisés. Et puis, il y en a tellement trop que ça devient encore un énorme poids au lieu de servir les fonctionnaires, par exemple. Donc, ce sont des difficultés qui entourent la mise en œuvre de cette loi, quoi.
Est-ce que cette non-application de cette loi-là ne favorise pas plutôt des financements opaques dans les états-majors ou dans les partis politiques?
Oui, tout à fait. Ça facilite les financements opaques, étant donné que seuls ceux qui ont l'argent en termes d'affaires ou en termes d'occupation des postes politiques, ne peuvent prendre en charge les candidats, même si ceux-ci sont des candidats très sérieux et qui peuvent servir ou qui sont appelés à servir la République. Donc effectivement, ça contribue à l'opacité des financements des différentes candidatures. On devait bien vérifier les différentes sommes d'argent qui servent actuellement à financer dans certains cadres certains partis politiques viennent d'où? Est-ce que cela résulte d'un exercice régulier illicite ou c'est le blanchiment des capitaux ou de l'argent?
Et comment solutionner ce problème-là alors?
Ben pour moi, solutionner le problème, c'est d'abord rationaliser la création des partis, rationaliser enfin, la culture même de la création des partis politiques. Sans cette rationalisation, je pense que ça va être délicat. Sinon, vous allez voir que demain, si on commence à financer dans le contexte actuel, vous allez bien vous rendre compte que demain, le nombre de partis va aller au centuple, comme il en est aujourd'hui de différents candidats. Voilà, il faut d'abord rationaliser les conditions de création des partis, des partis politiques, avant de penser à mettre en œuvre ces financements.
Professeur Gary Sakata, pourquoi voter des lois si après elles ne sont pas mises en œuvre?
Ah, c'est ça le grand drame. Pour le cas du financement des partis politiques, pour moi, ce n'est pas l'idée qui est mauvaise. On pouvait forcément voter, mais c'est le sentiment qui résulte ou les attitudes qui résultent après que les gens aient vu qu'il y a du financement. C'est plutôt au niveau de la création des partis politiques, la quantité des partis politiques créés actuellement ne permet pas au budget de l'État. Sinon, vous allez voir ça. Au lieu de s'occuper des fonctionnaires et des autres couches, on va maintenant s'occuper que des gens qui n'ont pas de boulot que de créer des partis politiques sans idéologie par ailleurs. Donc c'est ça l'autre face de cette question. La loi est bonne, l'idée est bonne parce que nous ne sommes tout de même pas le premier pays à penser ainsi. Mais vous allez bien voir dès qu'on commence à financer, mais c'est chaque coin de la rue aura son parti politique en vue uniquement des financements.
Mais justement, l'État a prévu des garde-fous pour lutter contre ces abus-là.
Oui, exactement. L'État a prévu des garde-fous, mais vous savez bien que dans le contexte qui est souvent le nôtre, les gens s'arrangent à être vraiment dans les normes par rapport aux garde-fous. Et que voilà, vous avez bien vu que par exemple ici pour la loi électorale, on a prévu un seuil de recevabilité, un seuil d'éligibilité. C'était en vue de réduire, par exemple, le nombre de candidats. Mais quel est le c'est donc un garde-fou. Mais on en est où? Ce garde-fou a échoué. Nous sommes au double de ce qui a eu lieu l'année en 2018. Donc c'est ça le problème.
Professeur Gary Sakata, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Fin du magazine Écho d'économie. Jean-Noël Mokondo était à la prise de son. Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.